Nous passons immédiatement à Amélie Paquet, que je suis aussi très content de présenter. Elle est étudiante au doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle rédige actuellement une thèse sous la direction de Bertrand Gervais et de moi-même sur la littérature et le sens commun après la Seconde Guerre mondiale chez Jean Genet, Louis-Ferdinand Céline et Samuel Beckett. Elle s'occupe notamment de Salon Double, qui est un observatoire en ligne de la littérature contemporaine, et elle est membre du comité de rédaction de la revue féministe DPI. Alors, la communication d'Amélie s'intitule...
J'ai changé.
Elle vous dira comment elle s'intitule.
Donc, mon nouveau titre est « L'idiot et le récit de soi », mais je parle toujours de l'innommable de Beckett. Donc,
dans... Excuse-moi, je n'ai pas compris.
« L'idiot et le récit de soi ». Dans la théorie du personnage, le personnage chez Samuel Beckett est toujours considéré comme un cas particulier, un contre-exemple du personnage littéraire. Philippe Hamon dit qu'il est un personnage instable, Yves Saint-Turel qu'il est un personnage déconstruit, Christine Montalbetti un personnage oblitéré et Jean-Philippe Miro un personnage épuré, néantisé, réduit à sa plus simple expression corporelle et psychique. La théorie du personnage, développée entre autres par la narratologie, ne peut donc pas s'appuyer sur Beckett pour constituer un portrait général du personnage de roman. Dans cette perspective, on pourrait très bien dire aussi que le personnage de Beckett est un idiot au sens du mot grec « idios ». Christine Delsol, dans « La nature du populisme ou les figures de l'idiot », explique que le terme grec renvoyait à un individu particulier, à un homme privé. Cet homme était singulier parce qu'il n'était pas important pour le monde commun, puisqu'il ne prenait pas part à l'activité politique. Dans son retrait, cet idiot devient paradoxalement l'homme vulgaire, le simple citoyen. Dans le monde de la Grèce antique, il incarne donc étrangement le commun par excellence. L'idios s'oppose pourtant au koinos, qui signifie le commun, et qui a produit le nom féminin de koinostase, qui signifie la communauté, c'est-à-dire cette instance qui rassemble toutes ces activités que l'on fait ensemble. Dès le début de l'innommable, le narrateur prétend être seul, même s'il affirme en même temps ne jamais arriver à l'être complètement. Il a sans cesse l'impression d'avoir de la compagnie, bien qu'il n'en veuille pas vraiment. Avant que n'arrivent Wham et Mahoun, il y a ce Malone qui tourne autour de lui, qui est peut-être aussi Molloy. Il n'est certes pas seul, mais le narrateur de l'innommable est isolé de la communauté politique. Il évolue dans une autre communauté qui est celle des personnages beckettiens, une communauté privée d'une certaine manière, une communauté éloignée des affaires importantes du monde. En retrait, il se démène avec une étrange famille. Le narrateur de Beckett est un héritier qui lutte avec des affaires privées, des affaires familiales. J'aimerais réfléchir au narrateur de l'innommable comme idiot à partir de son détachement de la communauté. À la fin de Malone meurt, roman qui précède l'innommable dans la trilogie de Beckett, le personnage principal Malone s'éteint. Le roman est organisé autour de l'attente de l'événement de la mort de Malone, mentionné d'Hélène Chipit. Avant de mourir, Malone nous annonce ses projets, les histoires qu'il doit rédiger avant sa disparition et l'inventaire qu'il veut dresser. Alors que Malone est mort en écrivant dans son cahier les deux mots « plus rien », le narrateur de l'innommable brise le silence causé par la disparition de Malone en posant trois questions. Donc, où maintenant, quand maintenant, qui maintenant, qui cherche à comprendre ce qui doit se passer après un événement. Je m'arrêterai ici surtout sur la troisième question, qui maintenant, et sur les trois phrases qui suivent ces questions, sans me le demander, dire « je » sans le penser. Malgré la solitude intangible du narrateur de l'innommable, une communauté, comme je l'ai dit, se maintient autour de lui. Elle est composée, j'ai nommé Molloy et Malone, elle est composée aussi de Murphy, Mercier, Camier, Watt, Moran. Après le narrateur, Malone est le premier personnage évoqué dans l'innommable. Le narrateur mentionne la présence à ses côtés de celui qui serait donc pourtant mort dans le roman précédent en disant simplement « Malone est là ». La confusion possible qu'il évoque entre Malone et Murphy portant un déguisement de Malone l'amène à réfléchir à la présence simultanée de tous les autres personnages. Je cite le texte, « À vrai dire, je les crois tous ici. À partir de Murphy, tout au moins, je nous crois tous ici. Mais jusqu'à présent, je n'ai aperçu que Malone. Autre hypothèse, ils ont été ici, mais ils n'y sont plus. Le « ici » réfère à un lieu que le narrateur ne décrit jamais. Il laisse entendre qu'il se trouve dans un endroit qu'il n'a pas choisi. Sa réalité lui a été léguée, peut-être par cette communauté d'êtres près de lui, dont il donne la pleine mesure de leur complicité par la position du « je » et du « nous » dans la formulation « je nous crois tous ici ». Il conclut quelques lignes plus loin au sujet de la présence de la communauté en reprenant la même apposition et en changeant le verbe « croire » par « savoir », soulignant ainsi sa certitude soudaine. « Non, 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 je nous suis tous ici pour toujours, depuis toujours. » À travers sa propre voix, lorsqu'il parle, le narrateur de l'innommable s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment seul. Sa voix ne semble en fait ne plus lui appartenir. Donc, je cite le texte, « On croit seulement se reposer afin de mieux agir par la suite ou sans arrière-pensée. Et voilà qu'en très peu de temps, on est dans l'impossibilité de ne plus jamais rien faire. Peu importe comment cela s'est produit, cela dire cela sans savoir quoi, peut-être n'ai-je fait qu'entériner un vieil état de fait, mais je n'ai rien fait, j'ai l'air de parler, ce n'est pas moi, de moi, ce n'est pas de moi, c'est quelques générations pour commencer. » Dans ce passage, on peut lire une allusion à la distinction bien connue, Saussure, entre la langue et la parole. La langue est un ensemble de signes qui correspondent à une réalité historique, qui font sens pour la communauté. Ce langage peut-il aussi faire sens pour un sujet? Peut-il lui permettre d'exprimer sa singularité? C'est à travers la parole, son utilisation concrète des signes, que le sujet peut tenter d'exprimer ce qu'il est grâce au langage. Le narrateur de l'innommable, qui a un corps altéré et qui ne paraît plus capable de bouger, est, selon le texte, une grande boule parlante. La parole est la seule action qui lui est désormais accessible. C'est une action que le narrateur craint. Je cite le texte, « J'espère que ce préambule s'achèvera bientôt au profit de l'exposé qui décidera de moi. Malheureusement, j'ai peur, comme toujours, d'aller plus loin. Car aller plus loin, c'est m'en aller d'ici. Me trouver, me perdre, disparaître et recommencer. J'ai peur, peur de ce que les mots vont faire de moi, de ma cachette, encore une fois. » L'idiot, c'est peut-être ce personnage qui s'exclut ou qui a été exclu de la communauté parce qu'il redoute ce que les mots pourraient faire de lui. Ludovic Janvier, dans « Pour Samuel Beckett », fait de la tension entre le langage commun et la parole singulière, l'objet de l'innommable. Donc, je cite Janvier, « Cette révolte des personnages beckettiens nous porte d'un coup, par le biais des histoires, au véritable sujet de l'innommable. Une méditation sur la damnation du langage. La parole se conteste au fur et à mesure qu'elle se divide parce que le langage est constitué quand je le saisis et que si je veux, avec cette vieille arme, me dire « moi », je reste introuvable et trompé. On ne peut jamais se connaître, mais seulement se raconter, dit quelque part Simone de Beauvoir, mais qu'est-ce même que se raconter? » Donc, j'aimerais tenter une première réponse à cette question posée par Janvier en examinant la problématique du récit de soi. En 1997, la philosophe américaine Judith Butler publie « The Psychic Life of Power » qui discute du rôle du pouvoir dans la formation du sujet. La même année, la philosophe italienne Adriana Cavarero publie son ouvrage qui a été traduit plus tard sous le titre « Relating Narratives, Storytelling and Selfhood » dans lequel elle réfléchit à l'importance de se raconter dans le développement de l'humain à partir de différents textes littéraires ainsi que de la pensée de Walter Benjamin et d'Anna Arendt. Après sa lecture de Cavarero, Butler revient en 2005 sur sa théorie du sujet dans « Giving an account of oneself » où elle fait une place importante à la morale au sens très particulier où l'entendait Theodore Adorno dans ses « Minima Moralia ». Même si Butler accueille dans ce deuxième ouvrage la pensée de Cavarero, il y entraîne une distinction importante. Pour Butler, se raconter vient du sujet lui-même, alors que selon Cavarero, le sujet est souvent incapable de se raconter. Il peut être raconté par un autre, par des conteurs par exemple, je vais y revenir, comme Edith à qui on raconte sa vie. Se raconter pour Butler, ce n'est pas parler de soi, mais plutôt rendre compte de soi. Le compte-rendu de soi permet au sujet d'être lié moralement à ses actions et de prendre pleinement la responsabilité de ses gestes. Cette relation du sujet à la responsabilité de ses actes va bien au-delà de la simple acceptation d'une culpabilité, puisqu'elle est liée profondément à lui, liée à la manière dont il se décrit lui-même. Cette relation l'engage ainsi totalement. Comme Butler, je vais parler du sujet et non de la personne ou de l'individu. Elle fait ce choix dans The Psychic Life of Power. Le terme « sujet » permet de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une structure en formation, que nous sommes d'abord des sujets avant d'être des individus ou des personnes. Le choix du terme « sujet » rappelle aussi sa relation au langage, puisqu'il ne devient intelligible qu'à travers le langage qui lui permet d'établir les premières condition de son existence et de sa capacité d'agir. Même si pour rendre compte de soi, il faut mettre en récit son existence et sa relation au monde, il ne s'agit pas de faire sa biographie. Je cite Butler, « Rendre compte de soi se fait sous une forme narrative qui ne dépend pas seulement de la capacité à retransmettre un ensemble d'événements séquentiels ou transitions plausibles, mais qui fait également appel à la voix et à l'autorité narrative et vise à persuader un public. » Butler, citant Nietzsche, rappelle que pour rendre compte de soi, le sujet a d'abord besoin d'être interpellé par un autre qui lui demande de faire un récit. En rendant compte de soi, le sujet prend acte d'abord de la souffrance impliquée par sa relation à l'autre. Il prend aussi position face à sa mauvaise conscience qui le mine de l'intérieur. Butler écrit que la capacité narrative constitue une précondition pour rendre compte de soi. Être capable de faire le récit de soi n'est évidemment pas sans problème. Le récit de soi ne dépend pas seulement du sujet lui-même ou de cet autre qui l'interpelle et qui lui demande de se définir. Une autre pression vient aussi de l'extérieur, celle de la communauté qui est, je cite Butler, une souffrance imposée par un au-dehors indifférent, sacrifiant la liberté et la singularité. Le sujet peut-il se raconter sans légitimer et autoriser cette souffrance qui vient du dehors et qui n'a d'égard pour sa singularité? Le sujet, en fait, doit se débattre avec sa propre violence, celle possible de l'autre qui s'adresse à lui, mais aussi celle qui provient d'un éthos collectif qui impose un ensemble de normes. Cette pression du dehors dans la perspective adornienne avec lequel le sujet pour exister doit nécessairement négocier est celle de la société dont font partie tous les individus. C'est cette société qui, au nom d'un universel, peut se servir de son éthos collectif pour exercer une violence sur les humains qui la composent, au nom de l'ensemble de ceux-ci. Pour Adorno, le sujet doit se réapproprier ses normes de façon vivante pour parvenir à une certaine liberté. Mais Butler, chez qui les normes, notamment les normes sexuelles, revêtent une importance capitale dans sa réflexion philosophique, se demande à la suite d'Adorno s'il est même possible pour le sujet de se réapproprier les normes puisque son existence ontologique dépend de certaines de celles-ci. Le sujet chez Adorno est sans cesse confronté à des normes dont il n'a pas la pleine mesure, alors que le sujet chez Butler est précédé par des normes contre lesquelles il tente parfois de lutter. Ces normes qui doivent, selon Adorno et Butler, être critiquées, jouent un rôle important dans les relations humaines, puisqu'elles permettent de reconnaître l'autre, et aussi, à travers elles, le sujet peut se reconnaître lui-même. Pour ces raisons, le sujet ne peut être défini comme autofondateur, il ne peut non plus détenir une connaissance totale de lui-même, puisque l'humain est un être relationnel dont plusieurs des relations qui le déterminent ne peuvent être pensées consciemment puisqu'elles détiennent l'opacité nécessaire à sa formation. De la même manière que cette opacité est essentielle, le compte-rendu de soi ne peut se faire sans une certaine douleur. Bien sûr, Butler rappelle par exemple que chez Nietzsche, il y a une souffrance qui dépend de la vie elle-même. Elle ne fait pas le lien avec Adorno, mais pour lui aussi, il y a une négativité, une douleur inhérente à la vie, contre laquelle il serait impossible de lutter puisqu'elle pose les conditions d'existence d'un sujet. Pour pouvoir rendre compte de soi, nul besoin donc de supprimer complètement la douleur, ni de percer toute l'opacité de la conscience. Le récit de soi passe forcément par 5 conditions. Il y a d'abord une exposition de soi, une monstration impossible à raconter, qui octroie au sujet les conditions premières de sa singularité. Le sujet doit ensuite détenir des relations primaires. Le fait qu'il fasse partie d'un monde lui permet de remplir cette condition. Il doit aussi avoir un début d'histoire personnelle à raconter. Une histoire à travers laquelle il a découvert ses propres limitations, c'est-à-dire le fait qu'il n'arrivera jamais à se connaître complètement. Le récit de soi doit aussi rencontrer des normes qui influencent nécessairement le sujet et qui le rendent paradoxalement interchangeable au moment même où il esquisse les contours de sa singularité. Cette première structure narrative, insuffisante pour rendre compte de soi, doit ensuite entrer en conflit avec la structure de l'interpellation au sein duquel un autre lui demande de se définir. Les modes discursifs sont impersonnels, mais la structure de l'interpellation ne l'est pas. on ne pourrait pas inclure l'interpellation dans la structure narrative parce que l'interpellation interrompt le récit. Elle le rend impossible tout en posant les conditions de son émergence. L'autorité narrative du jeu pourra seule contester les contraintes qui annulent la singularité. Le narrateur de l'innommable est précisément dans un moment d'arrêt, dans cet arrêt produit par l'interpellation. Dans son texte sur Proust, Beckett écrit que le romancier français, je cite le texte, « refusera les lois de l'espace puisqu'il ne veut pas jauger la grandeur et le poids de l'homme aux mesures de son corps, il préfère la mesure des ans ». Dans l'innommable, Beckett fait presque l'inverse de Proust, il refuse pour sa part les lois du temps. Et si l'homme, chez Beckett, se jauge désormais à la mesure de son corps, cette mesure lui est défavorable. Il n'est pas question ici de grandeur, mais plutôt de vulnérabilité et de petitesse. Dans cet arrêt du temps, le narrateur s'imagine à son tour capable d'entrer en contact avec Malone. Je cite le texte, « Il passe sans m'adresser la parole, peut-être qu'il ne me voit pas. Un de ces jours, je l'interpellerai. Je dirai, je ne sais pas, je trouverai le moment venu. Il n'y a pas de jour ici, mais je me sers de la formule. » La difficulté du sujet à rendre compte de lui-même réside aussi dans le fait qu'il ne peut raconter la scène d'interpellation, le moment où il devient « je ». Dans cette interruption, il n'y a que la parole qui est une forme d'action qui peut relancer le temps. Mais selon Butler, le sujet oublie l'avènement de sa parole. Le narrateur de l'innommable évoque sans cesse dans le roman sa connaissance d'une interruption sans raconter l'arrêt lui-même. Je cite le texte, je reprends après des années, c'est donc que je me suis tue, que je peux me taire. Selon Ludovic Janvier, la parole est toutefois remise en question dans l'innommable. Donc, je cite Janville, « Le roman de Beckett nous a mené jusqu'à ce point zéro où parler n'est plus parler, mais laisser dire, écouter, tendre l'oreille vers un langage étranger qui vous traverse sans vous contenir ni même vous rencontrer. Qui a volé le moi à lui-même? Le langage, cette élocution de non-rencontre où l'absence a trop peu de chances de passer à l'être, cette sous-conversation de malheur s'annule constamment et ne font qu'additionner leurs insuffisances. » Cette parole utilisée par le narrateur n'est jamais, selon Janvier, une simple parole, donc une utilisation concrète et sans heurts des signes que constitue le langage. Elle est toujours tendue vers l'autre, à son écoute. En fait, elle n'est pas tendue vers l'autre, mais plutôt vers les autres. C'est une parole attentive au poids du langage, attentive au poids de l'histoire de la communauté qu'elle traîne. Mais ce qui est particulier, c'est que le narrateur de Beckett ne sait pas grand-chose de ce poids. Il n'a pas de mémoire du passé, de la communauté, ni même de mémoire réelle de ses personnages, Malone, Meloy et les autres, qui sont désormais décrits comme des pantins. Le narrateur est hors du temps, hors de l'histoire, et pourtant l'histoire continue de peser sur lui. Il n'a pas le choix de continuer d'utiliser le langage, c'est tout ce qui lui reste, puisque son corps est profondément désagrégé. Malgré cette sortie du temps, le narrateur évoque parfois par bribes un passé. Dans un passage énigmatique du roman, le narrateur semble se rappeler l'existence de conteurs qu'il aurait connus ou du moins rencontrés. Donc, je cite le texte, « Ce soir après le souper, pendant que ma femme me guettait, les vieux racontaient ma vie aux enfants ensommeillés. Ça faisait veiller de chaumière. La tranche terminée, tous chantaient mon hymne. Puis, ils allaient se coucher, à l'exception de celui dont c'était le tour de guet. Les vieux n'étaient pas toujours d'accord à mon sujet, mais ils étaient d'accord que j'avais été un beau bébé, tout à fait au début, pendant 15 jours ou 3 semaines. Pourtant, ça avait été un beau bébé. Ainsi, invariablement, se terminait leur relation. Souvent, c'était l'un des enfants qui, profitant d'une pause dans le récit pendant laquelle mes parents s'abîmaient dans leurs souvenirs, lançait en guise de clôture la phrase consacrée « Pourtant, ça avait été un beau bébé ». Ces conteurs, qu'ils nomment aussi des narrateurs, racontent, non sans une certaine cruauté aux enfants, les débuts de la vie du narrateur de l'innommable, ces quelques jours où il aurait été beau. Les conteurs agissent dans la communauté comme passeurs d'une mémoire. Dans son article sur le narrateur, Walter Benjamin attribue aux conteurs le rôle de transmettre l'expérience complète des événements. Le conteur d'autrefois transmettait l'expérience puisqu'elle était sans cesse rejouée par son récit et que son auditeur devait se confronter à celle-ci comme s'il vivait l'événement raconté. Il assurait dans la communauté une place pour le savoir éthique, pour une sagesse qui correspond au sens commun. Pour Arendt, la narration joue aussi un rôle social important, mais il s'agit peut-être davantage d'un récit de soi que d'une histoire racontée à travers les générations. Hannah Arendt explique dans The Human Condition que le sujet qui cherche à répondre à la question de celui qui lui demande ce qu'il est, donc « qu'es-tu » ou « qu'est-ce que tu es », doit... Donc, c'est ça, pour répondre à la question du « quoi », qui n'est pas dans les trois premières questions de l'innommable, qui était le « où », le « quand », le « qui », pour répondre au « quoi », le sujet doit trouver ce qu'il a de commun avec les autres. Mais lorsqu'on lui demande plutôt « qui il est », la réponse est plus difficile à donner puisqu'elle relève au contraire de son unicité. Arendt remarque que pour expliquer qui nous répondons spontanément à l'autre question « qu'es-tu ?» Donc on répond « ou quoi ?» qui correspond à ce que nous sommes, à notre place dans le monde commun. Dans une perspective philosophique, Arendt conclut que la réponse à la question « qui es-tu ?» touche à un au-delà du langage, à un innommable, mais la réponse au « qui ?» peut, selon elle, être trouvée par le biais de la narration, par le récit de soi. La narration a donc ici un rôle politique puisqu'elle permet de dire l'unicité et que la politique, au sens d'Arendt, devrait être un espace d'interaction entre des êtres uniques capables de se montrer aux autres comme tels. Le récit de soi est donc important pour soi-même et pour la communauté, aussi important que le sont le récit des conteurs, mais ils ne sont pas moins difficiles à construire puisque le récit de soi met nécessairement le sujet dans une posture précaire, une position dangereuse. Butler analyse en détail un aphorisme des Minima Moralia à propos de l'amour. L'aphorisme s'appelle « Golden Gate ». J'ai cherché, je ne sais pas si le titre réfère au pont, mais le pont était construit quand Adorno a écrit « Minima Moralia », fait que c'est possible. A priori, ce passage d'Adorno paraît sans lien avec la question qui nous intéresse ici. Pour Butler, cet aphorisme ne discute pas seulement d'une morale privée, il a des répercussions politiques importantes qu'elle veut considérer. Donc, je cite un extrait de l'aphorisme Golden Gate. « Celui que l'on a offensé, laissé de côté, découvre soudain quelque chose d'aussi brutal que les douleurs fulgurantes traversant son propre corps. Il comprend qu'au plus profond de l'amour aveugle, qui n'en sait rien et ne doit rien en savoir, persiste le désir de ne pas se laisser aveugler. Il a subi un tort, il en déduit la revendication d'un droit qu'il doit en même temps rejeter, puisque ce qu'il attend ne peut être donné qu'en toute liberté. Dans une telle détresse, celui qui est repoussé devient humain. » Dans ce passage, Adorno semble être en train de donner des vertus à la douleur provoqué par un rejet amoureux, donc en disant « dans une telle détresse, celui qui est repoussé devient humain ». On pourrait aussi penser que ce passage est un effort de rationalisation de l'infortune où Adorno tente de montrer que grâce à un revers, le sujet peut devenir humain. Butler propose plutôt de lire cet extrait comme une tentative d'expliquer l'arrêt produit par l'interpellation. Dans cet extrait s'opère cet instant où le sujet devient humain et accepte les responsabilités que cela implique. Puisque le préjudice lui paraît inévitable, Adorno cherche à penser le dilemme moral qu'il rend possible et la transformation qu'il peut potentiellement permettre. L'aveuglement lié à l'amour qui correspond à notre propre opacité, à nos propres ignorances, à nos propres préjudices que nous nous imposons à nous-mêmes, semble aussi inévitable. Mais à travers cette douleur liée au rejet amoureux, le sujet peut revendiquer un droit, celui de ne plus être touché par cette souffrance. Ce droit est immédiatement rejeté par le sujet lui-même, puisque n'étant plus atteint par le préjudice, il deviendrait inhumain. Rejetant d'abord le préjudice, puis en l'acceptant pour éviter la position insupportable d'inhumain, le sujet redevient humain. Butler explique le caractère singulier d'un tel processus. Donc, je la cite, « Être humain semble vouloir dire que l'on est dans une position compliquée qu'on ne peut résoudre. En fait, Adorno précise qu'il ne peut pas définir l'humain à notre place. S'il faut caractériser l'humain, celui-ci semble constituer un double mouvement par lequel nous affirmons des normes morales en même temps que nous remettons en question l'autorité qui nous permet de le faire. Dans cette structure d'interpellation où l'autre qui demande au sujet de se définir produit chez lui une douleur, il connaît cet instant insupportable d'inhumanité. Cet instant le conduit aussi à devenir humain, à produire peut-être ce récit de soi dans lequel il se confronte non seulement à l'autre, mais aussi à sa mauvaise conscience et aux normes qui encadrent sa vie. Dans cet instant d'ignorance et de dépossession de soi, le sujet se met en péril, il prend des risques pour son autoconservation. Mais surtout dans cet instant où le sujet réclame le droit de ne plus être touché par le préjudice, il parvient à se défaire des autres et ainsi des normes qui pèsent sur lui. En se défaisant des autres, il retrouve le désir d'être humain, c'est-à-dire d'être un être relationnel qui vit et qui est altéré par les autres. L'idiot, celui qui est un être singulier, exclu de la communauté, c'est peut-être cet individu qui, comme le narrateur de l'innommable, doit quitter momentanément la compagnie des autres qui lui sont insupportables pour revenir près d'eux parce que leur absence lui est aussi insupportable.